Chapitre 22. Mais le Seigneur continue calmement à exposer ce qu'il a à leur dire. Aussi ce chapitre commence-t-il par la parabole du mariage du fils du roi, qui annonce le jour de l'Évangile sur le point de se lever. Nous ne trouvons pas la question « Que vous en semble ?» en relation avec cette parabole, car elle dépasse de beaucoup les pensées des hommes. Elle se distingue aussi des deux autres en ce qu'elle commence par « Le royaume des cieux a été fait semblable. » En acceptant l'invitation de l'Évangile, lorsque la ruine est totale, comme les autres paraboles l'ont montré, les hommes se placent sous la juridiction des cieux. Nous allons maintenant, comme au chapitre 13, apprendre quelque chose de nouveau. Dans cette parabole, le roi ne demande rien à personne. Il donne au lieu de demander. Lui aussi a un fils, pour lequel il fait des noces, envoyant ses esclaves pour convier les hommes. Quelle correspondance merveilleuse entre l'invitation envoyée et le message de l'Évangile. J'ai à prêter. Tout est prêt. Venez aux noces. Apprêter par le sacrifice de Christ. Prêt, puisque son œuvre est achevée. Aussi, maintenant, n'est-ce pas, allez travailler. Mais, venez. En premier lieu, l'invitation est adressée à ceux qui étaient invités, une classe de personnes particulièrement privilégiées. Nous en avons l'accomplissement dans les premiers chapitres des Actes. Pendant une courte période, l'Évangile n'a été annoncé qu'aux Juifs. Mais la plupart d'entre eux en firent peu de cas, étant occupés des avantages du monde, alors que d'autres s'opposèrent activement, persécutant et mettant à mort certains des messagers de la première heure, comme dans le cas d'Étienne. Cette étape prit fin avec la destruction de Jérusalem, annoncée dans le verset 7. Puis l'invitation s'étend, comme les versets 9 et 10 nous l'indiquent. Dans la parabole de Luc 14, il y a un esclave représentant sans doute le Saint-Esprit. Ici, il y en a plusieurs. Ce sont les instruments humains dont l'Esprit peut se servir. Ils sont envoyés dans les carrefours des chemins, pour convier autant de gens qu'ils trouveront, soit mauvais, soit bon. L'Esprit peut contraindre les hommes d'entrer, comme en Luc 14. Les esclaves, eux, reçoivent l'instruction d'inviter tous ceux qu'ils trouveront sur leur chemin. Tous n'accepteront pas, mais grâce à cela, le nombre des invités aux noces sera complet. Le prédicateur de l'Évangile n'a pas à s'embarrasser de questions touchant à l'élection de la grâce. Il a simplement à transmettre la parole à tous ceux qu'il rencontre, assemblant tous ceux qui répondent, car c'est à Dieu qu'il appartient de toucher le cœur des hommes. La seconde partie de la parabole, les versets 11 à 14, montre que, comme toujours lorsqu'il s'agit du service humain, ce qui est sans réalité peut s'introduire et subsister quelque temps. En n'acceptant pas la robe de noces, l'homme avait refusé d'honorer le fils du roi. À l'arrivée de ce dernier, il est démasqué et condamné à être jeté dans la place qui lui revient, les ténèbres de dehors. La présence divine découvrira tout ce qui n'est pas réel et démêlera toutes choses. Nous l'avons vu au chapitre 13. Nous le verrons encore une fois au chapitre 25. Les pharisiens sont maintenant à bout de ressources. Cela se voit dans l'alliance qu'ils sont amenés à conclure avec les Hérodiens qu'ils détestaient. Leur question concernant le tribut est habilement formulée de manière à discréditer Jésus, soit aux yeux de César, soit devant le peuple. Ils commencent par ce qu'ils considèrent comme de la flatterie, mais qui est un constat sobre de la vérité. Il était vrai, il enseignait la voie de Dieu en vérité, il ne s'embarrassait de personne. Leur ayant demandé la monnaie du tribut, il leur prouve que celui-ci était bien évidemment de César, car le denier portait son image. S'il est de César, il doit lui être rendu. Mais ensuite, il les place dans la présence de Dieu. Rendait-il à Dieu les choses qui lui appartenaient? Cette réponse magnifique non seulement les étonne, mais elle frappe tellement leur conscience qu'ils s'en vont. Jésus a posé là un grand principe qui s'applique à chacun de nous tant que nous sommes sous la juridiction d'un César, quel qu'il soit. Nous devons rendre à César tout ce qui lui est dû, Mais les choses qui sont de Dieu sont infiniment plus importantes et plus étendues dans leur application que tout ce qui est à César. La question des Sadducéens avait manifestement le double objectif de mettre Jésus dans l'embarras et de ridiculiser la foi en la résurrection qui, selon eux, ne pouvait être qu'un retour à la vie dans les conditions ordinaires de ce monde. Sans doute étaient-ils sûrs du résultat, la confusion de Jésus et la justification de leur incrédulité. Mais par sa réponse, le Seigneur montre que la résurrection introduit dans un autre monde, où les conditions sont différentes. Et il cite Exode 3, verset 6, pour indiquer que les patriarches, au jour de Moïse, vivaient dans cet autre monde, quoiqu'ils ne fussent pas encore ressuscités d'entre les morts. Le fait que leur esprit était là garantissait qu'ils y seraient, à la fin, dans des corps glorifiés. En ce temps, les sacrificateurs étaient en général d'une même pensée avec les Sadducéens, et le Seigneur ne les épargne pas dans le reproche direct qu'il leur adresse. « Vous errez », leur dit-il clairement, et il indique la source de leur erreur. Ils ne connaissaient ni les Écritures, qu'ils prétendaient exposer, ni la puissance du Dieu qu'ils professaient servir. Cette double erreur est à la base de toute l'incrédulité religieuse moderne. D'abord, les Écritures sont souvent citées à tort et toujours mal comprises. Secondement, à force de dépouiller Dieu dans leur esprit, de sa puissance et de sa gloire, ils se trouvent confrontés à des difficultés sans fin. Reconnaissons sa puissance et les difficultés disparaissent. La réponse du Seigneur étonne tous ceux qui l'entendent. C'était évidemment tout nouveau pour eux, et pour les pharisiens aussi, qui n'avaient jamais réussi à fermer ainsi la bouche aux Sadducéens. Ayant entendu cela, ils s'assemblent et l'un d'eux pose au Seigneur une question sur la loi. Il soulève un point qu'ils avaient sans doute souvent discuté entre eux. Ils pensaient aux 10 commandements d'Exode 20, mais le Seigneur l'amène à Deutéronome 6, verset 5, et ajoute Lévitique 19, verset 18. L'exigence de la loi se résume en un mot, l'amour. D'abord l'amour pour Dieu, puis l'amour pour son prochain. En disant « l'amour est la somme de la loi », Romains 13, verset 10, Paul ne fait que répéter en d'autres termes ce que Jésus dit ici, verset 40. Les trois paraboles les avaient mis en face de la grâce de l'Évangile. Les réponses données aux trois questions ont placé devant eux l'amour comme étant l'exigence suprême de la loi. Ils étaient étrangers à cet amour. Mais pendant qu'ils sont encore rassemblés, Jésus leur pose cette question importante : que vous semble-t-il du Christ ? De qui est-il fils ? Ils savaient qu'il devait être le fils de David. Mais ils ignoraient pourquoi, dans le psaume 110, David l'appelait son Seigneur. Le premier chapitre de notre évangile donne la seule solution possible à ce problème. Jésus-Christ, fils de David, est Emmanuel, ce qui, interprété, est Dieu avec nous. Lorsque la foi a saisi cela, la position entière paraît dans toute sa clarté. Si la vérité est refusée, comme par ces pauvres pharisiens, tout est obscur. Ils étaient dans les ténèbres, ils ne trouvent rien à répondre et leur défaite est si complète qu'ils n'osent plus l'interroger. Mais si eux en ont fini avec le Seigneur, lui n'a pas terminé avec eux. Le moment est venu de démasquer ces hypocrites devant les foules placées sous leur influence.